Chers auditeurs, chers amis, merci d'être à l'écoute ce soir du 14 juillet. Alors nous sommes dans le studio un petit peu avant, en raison des circonstances. Et donc je suis avec mon ami Jean Larmande, que vous connaissez bien. Et comme tous les mois, nous allons faire une analyse de ce qui s'est passé en Algérie au cours des derniers siècles. Et en particulier, nous sommes arrivés maintenant à l'époque de ce qu'on a appelé la colonisation française. Je ne sais pas si le mot colonisation est d'ailleurs est tout à fait approprié. Parce que ça a été une opération aussi de francisation. Bref, la France était souveraine en Algérie. C'était un territoire national. Il était rattaché, nous l'avons déjà expliqué, sous forme de département à la souveraineté nationale. Donc, le chef de l'État en était le garant, le défenseur. Toutes les autorités publiques devaient garantir, évidemment, la souveraineté du territoire, son indépendance et la sauvegarde des populations qui nous étaient confiées, qui étaient confiées à la France, au drapeau français. Et tout ça est important à rappeler parce qu'on fait comme si c'était possible de prendre un territoire, de le relâcher, de faire ce que l'on veut. Tout cela est évidemment absurde. Et notre ami Jean, depuis maintenant six séances, c'est mensuel, depuis six séances, nous a expliqué tout ce qui s'est passé avant d'abord la colonisation française. Mais je vais lui... Et puis maintenant, ce qui se passe depuis que l'Algérie est rattachée à la France et de manière, semble-t-il, définitive, malheureusement, ça sera contredit par les événements. Mais pour comprendre précisément ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'affaire d'Algérie, elle n'est pas finie. On vit encore l'affaire d'Algérie. Mmh. Et on était en passe de la réussir, sauf qu'on avait des institutions... idiotes, comme nous avons encore aujourd'hui, qui s'appellent les institutions républicaines, avec lesquelles il est impossible de rien faire. Donc, en tous les cas, le bien ne peut pas se faire. Et donc, je passe la parole à Jean Larmande pour qu'il nous dise où nous en étions et puis qu'il reprenne le cours, sachant qu'on était arrivé après la guerre de 1870 et que nous allons essayer de voir comment l'Algérie s'est considérablement développé grâce à la France, sous la France, sous le drapeau français, entre 1870, après la défaite, jusqu'à 1914-1918. À toi la parole, mon ami Jean.
Ok, voilà, merci beaucoup. Alors effectivement, dans notre dernière émission, début juin, nous avions étudié les conséquences de notre défaite face à la Prusse en 1870, les modifications de l'administration qui se tournaient vers une plus grande intégration de l'Algérie, enfin de ce qui s'appelait maintenant l'Algérie, puisque depuis quelques années avant.
L'Algérie est un nom que la France a donné à ce territoire. Et ça date de Louis-Philippe.
Oui, sous Louis-Philippe, il y a eu l'acte de naissance, puisque le gouvernement a écrit que les possessions françaises dans le nord de l'Afrique étaient dénommées Régence d'Alger. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1839, en disant désignée à l'avenir sous le nom d'Algérie. Et c'est là où le mot Algérie a été inventé et rentré dans le français, dans la langue française. Bon, je passe après ce qui s'est passé, les différentes évolutions administratives et autres, etc. On en a largement parlé.
Que tu as traité.
Mais aujourd'hui, 14 juillet, c'est notre sixième édition. Comme le disait Hilaire, elle a été préenregistrée pour faciliter la tâche. Mais on va la consacrer au succès et aux bienfaits de la colonisation de l'Algérie par la France. Parce que devant les concerts de critiques sur la colonisation, qui sont orchestrés non seulement par le gouvernement algérien, parce qu'il faut bien faire porter à la France la responsabilité de la situation actuelle et de son incapacité.
De l'incapacité, de l'incompétence. Non.
Mais aussi par les politiciens français. Et les idéologues français qui sont avides de conquérir ou de conserver le pouvoir et pour qui il faut s'allier aux musulmans et donc pour ça il faut leur traiter un tapis rouge, non, ce sera plutôt un tapis vert pour eux, mais en fait un tapis rouge, mais enfin, c'est ça. Donc, et donc pour moi, il est important de montrer les réalisations de la colonisation. Et je n'ai pas du tout honte de parler de colonisation, au contraire. Alors, nous allons couvrir en gros le demi-siècle qui va à la fin du 19e jusqu'à, en gros, la fin de la guerre de 14, le début de la crise des années 30, enfin, on verra ça, au travers de l'évolution des infrastructures, de l'économie, de la santé publique, de la population et de l'enseignement. Donc on va traiter ça, on ne va pas du tout traiter les aspects administratifs, gouvernementaux, mais on va traiter cela. Et dans une prochaine émission, nous traiterons de la guerre de 14-18 et l'évolution politique de l'Algérie à cette époque. Mais là, on va se concentrer sur les réalisations. Alors, la première réalisation, c'est le développement des infrastructures en Algérie. Les premières infrastructures, c'est le système de communication, qui fut une des principales réalisations après 70, mais ça avait commencé avant, car en 1830, est arrivé, il n'y avait en Algérie que quelques pistes, est-ouest, mais très peu, et des liaisons nord-sud ou sud-nord pour exploiter les réserves et aller vers les ports. Mais il n'y avait vraiment pas d'unité, puisque les Turcs, au contraire, cherchaient à ne pas avoir d'unité, à ce que les diverses tribus et populations se battent les unes contre les autres, ça leur permettait d'asseoir leur pouvoir. Alors, donc il y a eu une communication. Donc en 1870, il y avait un réseau routier, déjà créé, qui était de l'ordre de 1700 km. Bon, il avait été créé essentiellement par l'armée pour pouvoir déplacer des troupes et du matériel, comme des canons, etc., assez facilement, alors que sur une piste, c'était presque impossible. Et elle passe de 1700 km à 2900 en 30 ans, en 1900. Et c'est l'artère principale, c'est Oran, Alger, Constantine.
On comprend très bien.
Et sur laquelle se greffent des routes
est-ouest, ouest-est.
Vers les ports et vers le sud. Alors, à peu près juste à ce moment-là aussi, se crée la première ligne ferroviaire qui est Alger-Blida en 1862. Vous voyez, c'est quand même c'est l'époque où ça se développe à peu près en même temps qu'en France.
En même temps qu'en France, c'est ça, oui.
Alors, et l'État confie, là aussi, même modèle, l'État confie, les Français, confie à des compagnies privées la construction et l'exploitation des réseaux ferroviaires qui atteindra à peu près 2800 km en 1892.
Donc, vous voyez, en 1892.
Ça se construit très vite. C'est une artère majeure qui est parallèle à la côte, qui va d'Oran à Beaune, donc de l'ouest en est, en passant par Alger, par Constantine et Philippeville. Et cette ligne sera prolongée ensuite à l'ouest vers Tlemcen, puis vers le Maroc,
et
à l'ouest vers Tunis. Mmh. Donc en gros, on construit un axe ferroviaire d'est en ouest, enfin est-ouest. Alors, il y a des lignes de raccordement vers les principaux ports, vers Ténès, Bougie, ça c'est dans l'est, et surtout vers le sud, vers Ain Sefra, Djelfa, Biskra, qui faciliteront.
Et Biskra, c'était le plus au sud, pratiquement.
Oui, c'est ça. On reverra ça tout à l'heure, qui était à la frontière du désert.
Du Sahara.
Mais alors, ces lignes nord-sud faciliteront l'exploitation minière. Elle sera couronnée, d'ailleurs, en 1905, par l'achèvement des 1000 km de ligne d'Oran à Conlon-Méchard.
C'est ça.
Vous voyez donc là, qui traverse du nord au sud toute l'Algérie, tout près de la frontière marocaine.
Conlon-Méchard que De Gaulle aurait voulu conserver pour ses essais atomiques.
Oui.
Il ne l'a pas réussi.
Non.
Il a tout cédé.
Alors, ce système de communication a eu une très grande influence sur le développement des villes qui se construisent sur les voies ferrées. C'est quand même plus facile d'aller par la voie ferrée d'Oran à Alger, enfin, ou de Tlemcen à Alger, que d'y aller par la route à dos de mulet ou en voiture à cheval. Et donc les villes qui se créent, c'est Bouirab près d'Alger, Soukaras, Sétif, Relizane, etc. Mais Les voies ferrées
ce
aussi.
Ce sont vraiment des villes qui se créent.
Mais attendez, toute l'Algérie s'est créée. Il n'y avait quasiment pas de villes Algérie. C'était de la.
Faut préciser, c'est très important tout ça.
La campagne, il y avait les seules villes, c'était les ports et Constantine.
Oui.
Il y avait deux ou trois villes plutôt religieuses, mais l'implantation de la population se fait le long de la voie ferrée. Donc il y a un mot que j'ai retrouvé qui était amusant en disant « Le chemin de fer est un véritable fleuve colonisateur qui charrie des colons et les dépose le long de ses berges. » Je ne sais plus quel est l'auteur de ça, mais c'est intéressant, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Et d'autre part, il y a aussi les mouvements simultanés avec ça, des populations indigènes vers les grandes villes. Parce qu'elles restaient avant dans leur village ou le bled, mais là, elles ont intérêt vont cultiver ou faire des choses dans les grandes villes, et le transport ferroviaire est idéal pour eux.
Bien sûr.
Il y aura quand même des grands courants commerciaux sud-nord qui resteront. Par exemple, dans l'est algérien, pour l'exploitation des phosphates.
Oui.
Du minerai de fer. Enfin,
Les phosphates
et le minerai de fer.
Oui.
Et au centre et à l'ouest, en fait, la majeure partie du trafic va aller entre Alger, Oran, qui sont les deux grands ports.
Oui.
Et surtout, c'est cette région-là qui est la zone agricole la plus fertile, où il y a de la plaine. Dans l'est, c'est de la montagne. La petite Kabylie va quasiment jusqu'à Bougie, c'est-à-dire jusqu'à la mer.
Oui,
tandis
ça.
Que là, il y a toute la Mitidja, etc. Il faut noter aussi, à ce moment-là, c'est un peu un effet. C'est que les chemins de fer algériens sont souvent un peu pas en avance, mais vont beaucoup plus vite que en métropole, parce que ils sont plus rapides, ils utilisent très rapidement des motrices diesel. Le diesel a été inventé par les Allemands au moment de la guerre de 14.
Oui.
Ils ont des trains de nuit avec couchettes, etc. Donc c'est vraiment ça. Chose anecdotique, mais dont on se souvient, c'est que l'utilisation des pneumatiques sur les voies ferrées a été inventée en Algérie. Il y avait ce qu'on appelait la Micheline pour la route de Paris à Blida, le trajet de Paris à Blida, et le mot Micheline ne vient pas du féminin de Michel, mais il vient du nom d'une petite société française qui fabrique des pneumatiques. Qui les fabrique toujours. Voilà donc l'aspect du développement des infrastructures, mais ça ne s'arrête pas au transport, il y a aussi les ports. Et les ports, là, vont bénéficier de travaux très importants.
Il n'y avait pas de port,
en fait, il n'y avait quasiment pas de port. Les ports ne servaient que à abriter les bateaux pirates.
Oui.
Bon, c'était,
les barbaresques.
Ils étaient protégés.
Quelques pêcheurs, probablement.
Oui, mais pas beaucoup. Il y avait des pêcheurs, mais c'était surtout des Européens qui venaient pêcher. Je crois que c'est près de Beaune, je ne me souviens plus. Climat de France, qui était un port protégé par les Français.
D'accord.
Et d'ailleurs, ça sera une des causes de 1830.
Hein,
parce qu'on avait réarmé la forteresse qui protégeait. Et donc, par exemple, le port d'Alger, qui en 1830, c'était un bassin de 4 hectares, dont vous voyez tout petit, et peu profond. Mais il fallait pas pour que les. En fait, il fallait les bateaux pirates rentrer, mais il fallait pas que les bateaux français, qui étaient des trois ponts plus lourds, ne puissent rentrer. Donc, le port d'Alger, par exemple, va être continuellement agrandi et approfondi pour accueillir, ensuite, dans les années 14, à peu près, de grands cargos et des paquebots. En 14, par exemple, c'est le troisième port français en termes d'activité, avec une superficie de 115 hectares et 3 km de quai. Oui, et à l'époque, les bateaux ne faisaient pas 300 mètres de long. Hein.
Oui.
Le port d'Oran, qui avait été construit par les Espagnols à la fin du XVIIIe siècle, était ruiné et inutilisable lors de l'arrivée des Français. Il a été reconstruit et développé pour permettre l'exportation des produits agricoles, en particulier du vin, à la fin du XIXe, il atteindra la même taille que celui d'Alger. Et il y a d'autres ports aussi en Algérie qui sont développés. Il y en aura finalement en gros 23, dont 5 accessibles aux paquebots, protégés par une quarantaine de phares. Mais il faut se souvenir que la côte d'Algérie est très peu, est très inhospitalière pour les bateaux, parce que il y a le bord de la côte est fait de petites montagnes ou de collines, mais il n'y a pas de grands espaces de plages ou de plaines arrivant jusqu'à la mer. D'ailleurs, pour ça que l'Abitidja, par exemple, est un marécage, parce que l'eau qui descend de la montagne ne peut pas aller jusqu'à la mer. Et c'est ça qui fait qu'il y avait relativement peu de ports et que les Français vont les développer, mais que les deux plus grands, Alger et Oran, vont être un peu les plus importants, tout simplement parce qu'ils sont là.
Oui, bien sûr. Et puis, comment dire, l'Algérie se développant économiquement, socialement, politiquement, évidemment, l'activité portuaire devient beaucoup plus considérable.
Oui.
C'est un trafic continu entre Alger et Marseille.
Oui, complètement. Oui.
On ne se rend pas compte. On fait comme si aujourd'hui on avait tout oublié, mais quand on était jeune, on prenait soit l'avion, soit le bateau, mais on allait de Marseille à Alger, comme on allait entre deux villes françaises.
Oui, de nuit, un trajet de nuit qui n'était pas beaucoup plus long que le train Marseille-Paris.
Bien sûr. Oui.
Alors, bon, il y a une chose, bon, je n'en parlerai pas maintenant, mais dans une émission future, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, il y aura les infrastructures en Algérie seront complétées par la construction d'une dizaine de grands aéroports.
Des grands aéroports, bien sûr.
Dont celui d'Alger-Maison-Blanche, qui sera le deuxième aéroport de France après Orly, avant la construction de Roissy. Mais
c'était
le deuxième tout simplement parce qu'une bonne partie du trafic se faisait par avion entre Paris et entre Alger et Marseille ou Paris.
Mais quand on avait 14 ans, 15 ans, on avait des gens qu'on connaissait, des oncles, des tantes qui prenaient l'avion pour aller à Alger et aller y passer 48 heures pour traiter des affaires. C'était régulier. Ça ne posait aucun. C'est comme aujourd'hui aller de Paris à Bordeaux ou à Marseille. Il faut se rendre compte de la compénétration de la France et de l'Algérie à partir de ces années 1900, on peut dire.
Oui.
Et ça, c'est si bien qu'on a détruit une constance de relation qui fait que aujourd'hui on a les conséquences dont on parlera dans quelques mois.
Oui.
À savoir, il faut pas s'étonner que les flux continuent, quoi.
Bien sûr.
Mais dans l'autre sens, malheureusement, voilà.
On en parlera d'ailleurs dans l'autre sens. L'autre aspect toujours sur les investissements, c'est l'hydraulique, qui pose un problème important pour le développement de l'agriculture. En 1830, il y a très peu de terres cultivées, là, il y a très peu de population, il y a entre 2 et 3 millions d'habitants qui sont chez eux, etc., etc. Donc, ils se débrouillent sur place. Mais dès qu'on veut développer cela, on s'aperçoit que il faut de l'eau pour cultiver. Et donc, on imagine la création de barrages réservoirs, c'est-à-dire en gros barrages, c'est-à-dire qui barrages stockant l'eau en période de pluie pour l'utiliser en période de sécheresse. C'est le modèle qui existe en Espagne des huertas, etc., pour irriguer les cultures intensives. Alors ça a été commencé sous le Second Empire, en 1865, via le barrage de Saint-Denis-du-Sigle dans l'Oranie, qui sera un des barrages importants. Mais l'utilisation de ces barrages réservoirs, on s'en est pas aperçu, mais est très compliqué sur les terres de l'Algérie. Parce que il y a un relief qui est très montagneux, mais il y a une érosion très importante de ce relief. Il a toujours été, si vous voulez, mais en France, on l'a pas. Et donc, les ingénieurs des ponts et chaussées qui vont là-bas se disent, c'est comme en France, on fait comme en France. Mais le relief s'érode facilement. En plus de ça, on déboise. Et donc, pour cultiver, parce que ce sont des terres boisées qu'on peut cultiver, on déboise. Et donc là, il y a de nouveau de l'érosion. Et donc, et en plus de ça, le régime des pluies dans le oui. sud de la Méditerranée. Même dans le nord, il est un peu comme ça. Enfin, c'est pas du tout le
il
régime.
Il est incertain et torrentiel.
Exactement. Et brutal. C'est limité et très fort. Très
c'est
fort. C'est, en gros, il pleut au printemps et à l'automne.
C'est ça.
Mais ces régimes torrentiels font qu'il y a des ruptures de barrages, parce qu'ils sont généraux, et des envasements. Et les ruptures de barrages, on sait ce que c'est en France, parce qu'on on aura
à Fréjus.
À Fréjus, pour aussi, c'est pas le barrage qui s'effondre, c'est l'érosion non prévue qui est de l'eau dans le barrage qui veut s'écouler sur le côté, qui érode la terre et qui fait que l'appui au nord s'effondre.
Oui.
Et donc là, on a plusieurs fois le cas de barrages qui s'effondrent. Et c'est pour ça que se développent petit à petit des barrages déversoirs. En gros, c'est des canalisations. On bloque un peu le cours d'eau pour qu'il aille un peu plus loin pour irriguer dans des endroits que l'on veut cultiver. Et au début du XXe siècle, donc, on comptait environ une centaine de barrages déversoirs qui chacun arrosaient autour de 500 hectares. C'est pas énorme, mais enfin, 100 fois 500, ça fait 50 000.
500 000 hectares.
Voilà. Mais alors, à ce moment-là, le problème essentiel de l'Algérie est le manque de financement, et le besoin de financement, disons le manque, le besoin de financement. Alors, on traitera ça après, mais les dépenses publiques sont très inférieures aux besoins. Je crois que c'est en 86 que le gouverneur général de l'Algérie, Tirman, estime que pour les routes nationales, routes nationales, pas simplement l'axe est-ouest, les routes principales, il faudrait investir environ 70 millions de francs et le budget annuel est seulement de 1 million pour les routes. Donc ça veut dire que si on fait une division de 70 par an, c'est-à-dire qu'il faudra 70 ans pour les réaliser. Et qu'il en est de même pour les ports, etc. Et ce n'est pas compensé parce que les colons qui viennent s'installer arrivent en ayant à peine de quoi subsister. Mais ils n'ont pas de quoi investir lourdement pour des cultures coûteuses, des canalisations de l'eau et ainsi de suite. Il faut savoir que les gens qui viennent en Algérie sont en général
pauvres.
Ils viennent tout simplement parce que ils n'ont pas beaucoup de choix.
Oui.
Je me souviens plus, mais une partie de ma famille est arrivée dans les années 1847 ou 48, enfin, disons, après 1840 et avant 1850. Ils venaient de la Bourgogne sèche, vous voyez, parce que on pense le père de famille, il était le troisième et donc
il n'arrivait plus à vivre
sur la terre familiale, donc il est parti avec femme et enfant pour l'Algérie.
C'est ce qu'on appelle un horrible colon,
oui,
dont il faut tuer tous les descendants
mm-hmm.
et tous les habits des descendants.
Mm-hmm. Tout à fait. Alors bon face à ça, il y a eu un effort, c'est que la Banque de l'Algérie, qui avait été créé sur le modèle un peu de la Banque de France, et qui bénéficiait d'un privilège de battre monnaie.
Oui,
comme
la Banque de France.
Comme la Banque de France. C'était la Banque de France en Algérie, a obtenu une extension de son droit de vivre.
Oui.
Et une assez forte augmentation de capital. Mais l'administration, enfin le gouverneur général, lui a dit
en contrepartie,
il faut investir dans l'agriculture. Donc c'est ce qu'elle a fait. Alors du coup, elle a créé les comptoirs d'escompte pour permettre de financer, etc. Mais il y a eu aussi d'autres banques qui vont s'installer. Il y a eu le Crédit Lyonnais, parce que c'est aussi le moment de la création des banques en France. Dans la foulée, il y a eu le Crédit Lyonnais qui se crée, puis la compagnie algérienne, qui sera, je crois que c'était la compagnie algérienne de crédit et de banque. Le titre était exact. Le Crédit Foncier Agricole d'Algérie et de Tunisie, etc. Mais malgré tout, il faut quand même voir que les taux d'intérêt de crédit sont de l'ordre de 7 à 8%, et que donc c'est extrêmement difficile de constituer quelque chose avec ça.
Et bien sûr.
Parce que la rentabilité
n'est pas de
7-8%, etc. Il n'y a que l'air que quelques, comme la vigne, etc. Et de ce fait, l'usure va perdurer, ça existait déjà, etc., etc. Et ça sera la source de nombreux conflits un peu plus tard, en particulier entre les musulmans et leurs financiers, c'est-à-dire les musulmans et les juifs.
Oui.
Parce que, l'usure, ça a toujours existé, le prêt d'argent.
Surtout dans ces pays-là.
Oui. Comment ? Mais surtout dans ces pays-là. C'était, mais ça a été la source, et ça sera la source de nombreux
conflits,
d'autant plus que c'est l'époque où, dans les années 70, où les juifs sont devenus français, citoyens français.
Avec le décret Crémieux.
Exactement. Alors, je vais rentrer. Donc, on a vu donc l'aspect infrastructure.
Oui, c'est très intéressant.
Je vais pas parler des villes, mais enfin, on en avait parlé avant avec la colonisation, etc., la création de villages, et ainsi de suite.
Mais c'est très intéressant parce qu'on voit comment, en très peu de temps, 40, 50 ans, la France a fait une œuvre considérable. On peut penser ce que l'on veut du reste, mais concrètement. L'Algérie n'existe que par ça. Enfin,
oui, tout à fait. Mais non, mais tout simplement parce que avant, en 1830, on ne pouvait quasiment pas aller d'est en ouest de l'Algérie en moins d'un mois ou deux parce qu'il fallait y aller.
Et encore avec des risques considérables.
Bien sûr. À pied ou d'aller prendre un bateau et ainsi de suite. Enfin, c'était. Alors maintenant, la deuxième chose, c'est l'agriculture. En Afrique du Nord, l'Afrique du Nord est une zone essentiellement agricole. Il y a, à cette époque-là, et même encore maintenant, il y a peu de ressources minières, etc. Parce qu'on ne peut pas dire que le pétrole soit en Afrique du Nord, il est en Afrique centrale, dans le centre de l'Afrique. Bon. Donc, l'Afrique du Nord est essentiellement agricole, et cette agriculture, ce sont, au début, ce sont surtout des céréales qui forment la première place. Mais ça, c'est pas la France qui l'a amené, parce qu'il faut se souvenir que la culture des céréales en Afrique du Nord remonte fort loin.
Bien sûr.
À l'époque romaine.
C'était le grenier à blé.
C'était le grenier à blé de l'Europe. Et il faut se souvenir que quand on regarde les textes de l'effondrement de Rome au 3e et 4e siècle, ben, ils attendaient désespérément l'arrivée
du froment de
l'Afrique du Nord. Enfin, c'était Tunisie,
Algérie, même jusqu'à la Mauritanie.
Tout à fait.
Donc, parce qu'à l'époque, la colonisation romaine allait jusqu'à la Mauritanie.
Oui.
Et elle avait fait d'ailleurs, elle aussi, de remarquables investissements.
De toute façon, on verra que le début de la colonisation française va dans le sud, jusqu'à la zone où se trouvaient les villes romaines, qui protégeaient l'Afrique du Nord des invasions, des raids.
Oui.
Et deuxième chose aussi, donc ça c'était à l'époque de Rome, mais il y a aussi une chose un tout petit peu plus récente, c'est que à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la campagne d'Égypte de Bonaparte, eh bien il a fallu trouver des ressources en blé, parce qu'en France, grâce à la Révolution, on n'y arrivait plus. Des ressources en blé, on a donc traité, c'était le directoire.
Oui.
Oui, c'était le directoire, qui a traité avec l'Algérie, au travers, encore une fois, d'intermédiaires Bakri et autres, qui étaient des Italiens. Et c'est ça d'ailleurs qui a été un des éléments déclencheurs de l'hostilité entre la France et l'Algérie en 1830.
Le règlement des vieilles factures.
Oui. Alors, pour l'agriculture, à l'arrivée des Français, on considère qu'il y a environ 100 000 hectares cultivés par des indigènes dans les régions côtières et dans les régions montagneuses. Et que ça suffisait pour alimenter la population, qui était de l'ordre de 2 à 3 millions d'habitants. les nouveaux arrivants, qui étaient des agriculteurs français ou espagnols ou italiens, maltais, etc., etc., qui avaient tous à peu près la même culture, disons agricole, sont arrivés et ont poussé donc les céréales, puisque c'était, il y en avait, donc c'était relativement normal de le faire, mais il leur a fallu, donc ils ont beaucoup développé, mais il leur a fallu
assainir les terres.
Assainir des terres, c'est-à-dire que la mitidja, il a fallu enlever les marais enlever toutes les cultures qui étaient là-dedans, mais aussi ailleurs, c'était, c'est pas marécageux, mais c'était de l'alpha ou des broussailles ou des broussailles, etc. Il fallait les arriver et puis passer du temps à assainir les terres. Donc ça représentait énormément d'efforts, et d'ailleurs il y a eu pas mal de mortalité, mortalité importante. L'augmentation de la population était essentiellement, non pas la population sur place, mais le remplacement et un peu de peuplement qui arrivait. Il faut aussi savoir que les Européens qui arrivaient avaient pour beaucoup, ils n'avaient aucune connaissance ou très peu de connaissances agricoles. Certains en l'avaient, je parlais de ma famille, mais il y en avait d'autres qui venaient parce qu'ils trouvaient de ça en France, hein, ou en Italie, ou alors par exemple, je crois que en Algérie, les céréales, c'était d'abord l'orge qui représentait à peu près la moitié de la production, bon, qui permettait d'alimenter, d'être utilisé tel quel, mais aussi pour les bêtes et ainsi de suite, parce qu'il fallait qu'il y avait quand même quelques des mulets ou des ânes qu'il fallait nourrir. Mais il y avait aussi du blé dur, c'est-à-dire celui qui est utilisé pour les pâtes, le couscous, etc. Oui. Et là, un peu de blé tendre et on a apporté de l'avoine qui ont permis le développement. Et le blé tendre, c'était pour exporter vers la France. Oui. C'est pas de l'orge qu'on pouvait exporter, c'était essentiellement du blé pour faire du pain.
Oui.
Et de même, pour se nourrir, c'était ça. D'où une certaine évolution. Mais une des grosses surprises, c'est que les variations climatiques font que les récoltes change d'une année à l'autre complètement. On considère qu'il était normal qu'une année d'un autre, ça doublait ou ça était divisé par deux. C'était ce qui existait en métropole, effectivement, mais pas du tout.
Tout à ce point-là.
À ce point-là, tout simplement parce que le climat en Europe était plus régulier que le climat en Algérie.
Oui.
Et que en Europe, la France produisait des céréales plutôt dans le nord et dans l'ouest, et pas tellement au bord de la Méditerranée. C'était de la vigne, c'est vraiment, ça a été vraiment une des grandes choses. Alors, à titre d'exemple, au début du XXe siècle, on considérait qu'une bonne année correspondait à 20 millions, une récolte globale de céréales de l'ordre de 20 millions de quintaux. Bon, c'est bien, mais enfin, c'est pas général. Alors, et l'évolution, là aussi, de l'agriculture de céréalière est lente, parce que il faudrait faire des labours profonds.
Oui.
Mais labours profonds, ça veut dire des chevaux.
Oui.
Or, il n'y a pas beaucoup de chevaux. Oui. Les chevaux, c'est pour se déplacer. Et on utilise du mulet. Bon, on peut le faire, mais enfin, c'est compliqué. Il y a donc il faut du matériel et ainsi de suite. C'est coûteux. Même chose, l'irrigation. On a vu tout à l'heure que c'était compliqué. Et les engrais, on n'en utilise pas ou très peu. On utilise. Alors, on fait beaucoup le truc classique, qui est l'assolement. Tous les deux ou trois ans, c'est-à-dire qu'on cultive des céréales. L'année d'après, on y met les moutons
Oui.
Etc. Il y a de l'engrais là, donc, qui se dépose, on relaboure au bout de 2 ans ou 3 ans, et puis, etc. Mais ça veut dire que c'est quand même extrêmement lent comme développement. Les engrais, on en a parlé un peu tout à l'heure. Par exemple, il y a de grosses ressources de phosphate dans la région de Tébessa, dans le sud. Et on ne l'exploite pas. Il y a une entreprise, je crois que c'est britannique, qui s'installe, mais qui exporte l'engrais vers l'Angleterre. Mais aujourd'hui encore, quand on regarde le Maroc produit beaucoup d'engrais. Et on achète de l'engrais, on achète des phosphates au Maroc. Alors, directement, il y a quelques discussions, je ne sais pas quoi, sur les escrologistes qui... enfin... Voilà. En revanche, les principaux progrès, c'est plus qualitatif, c'est-à-dire le choix des sélectionner les semences ou les produits qui se développeront facilement. C'est le choix des semences, parce que dans tel type de climat, tel type de semences, de blé ou autre, et c'est, disons, par l'aspect intellectuel et...
scientifique,
exactement.
Oui, l'Algérie a profité
du
progrès considérable des sciences... Les sciences agricoles à la fin du 19e, au début du 20e.
Oui, tout à fait. Et on verra d'ailleurs que, je crois que je voulais en parler un peu, mais je vais en parler maintenant, c'est que un des premiers investissements intellectuels dans l'agriculture, ça a été en Algérie, la création de l'école d'agriculture.
D'une école d'agriculture, oui. L'équivalent à notre Grignon, oui.
Oui, tout à fait. Et qui a permis de faire énormément de progrès, parce que là, on est amené des scientifiques
qui ont formé et qui connaissaient autre chose que
l'Algérie.
Bien sûr.
Et donc, qui ont formé, etc. C'est...
Là aussi, c'est considérable.
Oui.
Le passé en perte et profit, c'est absurde. D'ailleurs, l'Algérie en souffre, parce qu'elle ne les a plus, ces écoles. Elle ne les a plus.
Voilà, je retrouve
la France est partie, les écoles sont parties, évidemment, enfin, où elles ont perdu leur qualité. C'est ça.
C'est en 1832.
Oui.
Donc, vous voyez, juste 2 ans
après l'installation,
que le gouvernement a créé la première ferme école qui est destinée à former les nouveaux arisans. Les nouveaux arrivants en Algérie, en disant, ils arrivent, ils débarquent du bateau, hop, on les amène là, etc. Et par exemple, ça a été utilisé en 1848, pour les ouvriers, je sais pas, c'était les ateliers nationaux.
Les fameux ateliers nationaux, on les
a transportés en Algérie. Là, c'était un coup de train, puis un coup de bateau, et ainsi de suite. Ils arrivaient et on les mettait à tremper à l'école pour qu'ils apprennent le métier d'agriculteur.
C'est ça.
Quand on compare ce qui a été fait par les gouvernements de l'époque qui anticipaient ce qui allait se produire, on est sidéré de voir la qualité de notre administration aujourd'hui, qui sont infoutus de voir les conséquences de ce qui se passe.
Mais bien sûr, bien sûr.
Je fais un saut pour aujourd'hui. Ça a été, par exemple, la suppression de la taxe d'habitation.
Oui.
Qui a déclenché
un appauvrissement de toutes les communes.
Bien sûr. Non seulement ça, l'appauvrissement des communes, donc l'augmentation des impôts.
Bien sûr.
Et à ce moment-là, beaucoup d'habitants se sont dit, oulala, ma résidence secondaire, tout ça. Mais finalement, si je la transformais en résidence principale, parce que j'habite dans une ville où les taxes d'habitation sont beaucoup plus faibles. Oui. Et donc, ça, mais maintenant, les communes se sont dit, shit alors, maintenant, on paye les conséquences, ben, ça veut dire que la population résidente, même si elle n'est résidente que sur le papier, mais a beaucoup augmenté, et donc maintenant ils rentrent dans la catégorie des grandes communes qui doivent créer des appartements sociaux, et ainsi de suite. Vous savez, C'est que
la bêtise des technocrates qui nous dirigent est inconcevable.
Oui, mais
surtout qu'elle se déguise en science. Oui.
Oui,
ou en prétendu avantages sociaux. Oui.
Moi, j'ai toujours me souvenir de ma grand-mère. Bon, qui elle était, ils sont arrivés en Algérie dans les années 1840. Enfin, elle était exactement après, mais qui me disait toujours, je faisais des bêtises. Elle me disait, mais Jean, si tu veux cracher en l'air, regarde d'abord d'où vient le vent.
Bien sûr. Sagesse des grands-mères.
Voilà. Enfin, c'est... Alors, à côté, donc, on a largement parlé des céréales, mais à côté, il y a eu aussi un gros développement d'autres cultures implantées, en gros, grâce au climat. Par exemple, les agrumes.
Bien sûr.
Il y a eu un énorme développement des agrumes avec les oranges, les citrons. On a importé, ça existait déjà, des mandarines. Et
les clémentines.
On a inventé la clémentine. C'est le père Clément.
Tu nous en as parlé la dernière fois.
C'était un moine trappiste.
Un moine trappiste, oui. Ouais.
Mais,
alors, je voudrais savoir aujourd'hui où ça en est, moi, cette production, parce que... on est inondé des productions espagnoles, des productions israéliennes, mais je ne vois pas que l'Algérie soit devenue un exportateur ou soit restée
non,
un exportateur.
Pense pas.
Or, quand on était jeune, on mangeait les clémentines d'Algérie. On n'allait pas les chercher en Israël.
Non, tout à fait. Et d'ailleurs, pour moi,
en Espagne.
Et d'ailleurs, pour moi, ça m'avait fait... je parle un peu de mes souvenirs.
Oui, bien sûr, mais c'est au contraire, ça intéresse nos auditeurs.
Je n'arrivais pas à comprendre les livres de la comtesse de Ségur et qu'on offrait aux enfants à Noël des oranges.
Oui.
Parce que pour moi, à Noël, les oranges, j'ouvrais la porte du jardin de ma grand-mère et j'allais vers l'oranger.
Voilà, oui, bien sûr.
Voilà, alors donc il y a eu les agrumes, mais aussi de l'olivier,
oui,
parce qu'on a redéveloppé la culture de l'olivier et de
qui
l'huile.
Je crois savoir que la culture de l'olivier était complètement catastrophique. En Algérie, c'est les Français qui ont remonté ça.
Ah, complètement, il n'y en avait quasiment plus.
Oui.
Mais aussi parce que l'olivier, l'huile d'olive était intéressante pour à l'époque romaine, etc.
Oui, bien sûr.
Mais après ça, vous êtes dans votre village, vous avez vos champs, vous gardez un peu de quelques olives.
Les chameaux ne se nourrissent pas d'olives.
Exactement. Mais il y a aussi, alors on développe aussi d'autres cultures. Il y a le chêne liège, on essaye le tabac, on essaye le coton. Enfin, il y a pas mal. On cherche à développer pas mal l'agriculture en.
Et ça transforme d'ailleurs, je crois me souvenir, le paysage algérien, qui ressemble du coup de plus en plus à tout le pourtour de la Méditerranée et notamment la Provence ou l'Italie, c'est-à-dire des forêts de chêne liège, d'oliviers, de.
Alors le miracle de l'économie de l'agriculture en Algérie.
C'est la vigne.
C'est la vigne. Et là, on peut dire, si on prend ça, on peut dire c'est la vigne, ou le miracle, c'est le phylloxéra.
Oui.
Parce que dans les années 30, il y avait très peu de vignes en Algérie. Je crois qu'il y avait environ 1 000 000 d'hectares. Mais c'était normal, parce que comme toutes les populations avaient... c'était converti... de gré ou de force, hein, je sais pas si je dis déjà, mais il y a un mot dans la langue arabe qui s'appelle bessif. Et bessif, ça veut dire par le sabre. Donc, on dit de force, c'est par le sabre. Et donc, j'étais converti à la religion musulmane, donc, dans la religion musulmane, je crois que c'est grâce à un oncle de Mahomet, d'après ce qu'on m'a dit, qui buvait fortement et qui avait battu ou tué deux ou trois chameaux de Mahomet, que Allah a mis dans le Coran qu'il ne fallait pas boire la première goutte d'alcool. Bon. Il y avait très peu. Ça n'intéressait, l'alcool n'intéressait, le vin n'intéressait que les Juifs. En Algérie, il n'y avait pas de...
Et quand les Français sont arrivés, évidemment les Français. Et en particulier les Bourguignons comme les Larmandes.
Exactement. Mais non pas les Larmandes. Les Larmandes, les Lombards. Mais non, les Mogas. Mais il y a eu la crise du phylloxéra, qui en gros, dans les années 1880,
oui. Un peu. Mais c'est reproduit, d'ailleurs. Hein. Elle a été à répétition, cette...
Oui, mais ça a été dramatique. Oui. C'est-à-dire qu'on...
En France, ça a été une extinction. Oui, oui.
En France, je retrouvais des statistiques, oui, en disant qu'il y avait une production de vin de 82 millions d'hectolitres en 1875, et elle était tombée à 24 en 87. Vous voyez ? Vous voulez que le Bobino ?
Oui, on passe le Bobino, c'est ça ? Alors, passons le Bobino.
Chaque année, c'est le même scénario. Les vacances commencent, le quotidien s'arrête et certains choisissent d'oublier leurs engagements. Cet été, n'abandonnez pas Radio Courtoisie. Alors que la gauche veut nous bâillonner et détruire notre liberté d'expression qui vous est chère, votre radio reste fidèlement à vos côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'été est la période la plus difficile de l'année. Nous avons besoin de 200 000 euros pour continuer à émettre et vous préparer une rentrée percutante. 1 euro, rien qu'un euro par auditeur. Cet été encore, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Soyez partie prenante de cette résistance. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Radio Courtoisie, libre, indépendante et fidèle, grâce à vous.
Chers amis auditeurs, vous avez écouté l'appel à don et je ne saurais trop vous inciter à y répondre le plus favorablement possible, car c'est un plaisir de parler sur Radio Courtoisie, et un plaisir de parler librement, comme je le fais ce moment, avec mon ami Jean Larmande, pied noir, et président du cercle algérianiste d'Île-de-France et de Neuilly. Alors, nous en étions au vin.
Oui, nous étions au vin. Et donc,
la viticulture algérienne.
En France, donc, en métropole, le filo de Serra avait, en gros, éliminé une bonne partie des vignobles. Et la production de vin était réduite des trois quarts. Mais en Algérie, comme on n'avait pas importé de plants venant d'Amérique, il n'y a pas eu tout de suite de filo de Serra. Il y en aura d'ailleurs relativement moins. Et donc, on a développé l'agriculture. Et
La viticulture.
La viticulture, oui, tout à fait. Et je crois que c'est en 1890, à peu près, la superficie viticole de l'Algérie atteignait 140 000 hectares.
Oui.
En 90, c'est ça.
Ça, c'est énorme, oui.
Exporté 5 millions d'hectolitres vers la métropole. Donc, ça, parce que, le miracle de la vigne n'est pas simplement la vigne et l'agriculture. C'est toute l'industrie
qui est
intégrée à ça. Puisque surtout quand à l'époque, il n'y avait pas de bateau réfrigéré et autres, donc on ne pouvait pas exporter du raisin. Donc le raisin, on peut le manger, mais on ne peut exporter que du vin. Et pour le vin, il faut d'abord le produire. Et donc il y a eu un gros développement en Algérie de main-d'œuvre spécialisée, c'est-à-dire des tonneliers, parce qu'il faut des chaudronniers, parce qu'il faut construire des tentes, des chais, etc. Des ouvriers qui travaillent dans les chais, et puis de la main-d'œuvre agricole pour la taille, la récolte, les plantations, etc. Et derrière, des routes, parce qu'il faut transporter les barriques.
Bien sûr.
Et la barrique, ça ne monte pas sur un cheval.
Bien sûr.
Des routes, d'adapter les ports, et ainsi de suite. Donc, ça a été vraiment une source de développement très, très importante. Et en plus de ça, ça continuera après parce que le climat étant relativement plus chaud, le raisin d'Algérie avait plus de sucre.
Oui.
Et donc permettait un taux d'alcool, on produisait du 13,5, 14, voire même 15.
Jeune, j'en buvais du vin d'Algérie, on peut encore en boire, ou du vin du Maroc. C'est des vins qui sont beaucoup plus forts.
Oui, tout à fait. Donc, ils ont des goûts différents, puisqu'il y a
Je me souviens que tu les connais sûrement. J'ai bien connu la famille Lung.
Oui,
qui étaient des viticulteurs.
Ah, oui.
et j'ai bu de leur vin. Et c'était du très bon vin.
Je garde un très bon souvenir
de la famille Lung, le vieux père Lung et Madame Lung, avec qui j'étais un peu son enfant chéri, parce que je me suis retrouvé...
En même temps que Paul,
dans les geôles gaulliennes.
Hébergé par l'État.
Et comme j'étais très jeune, j'étais le plus jeune des prisonniers, elle avait pour moi une affection vraiment qui me reste et qui me bouleverse. Oui.
Et alors Paul me dit souvent que notre amitié, lui et moi, est en fait une amitié héréditaire, parce que nos grands-pères étaient déjà amis.
Ah bon, d'accord, déjà, oui, je vois.
Et lui, d'ailleurs, c'est sa famille Lung, enfin, en Algérie, on disait Lung.
Lung, oui, mais c'est une famille d'origine alsacienne.
Alsacienne, oui, c'est arrivé à ce moment-là, voilà, ok.
T'étais pas d'horribles colons, moi j'en ai assez de cette façon aujourd'hui, où la France elle-même, enfin les prétendus historiens français à la Stora, etc., ont transformé une histoire qui est une histoire magnifique, avec des difficultés, bien sûr, comme dans toutes les familles, comme dans toute politique, comme dans toute histoire nationale,
oui.
mais qui a des côtés absolument merveilleux. Enfin, faut arrêter cette façon de nous dénigrer qui est honteuse. Et Macron emporte la responsabilité principale.
Non, c'est déjà avant.
Mais c'est déjà avant, bien sûr. Mais il en a fait un système.
Oui.
Et probablement même un système de gouvernement.
Mais aujourd'hui, on nous parle...
C'est de l'actualité, on ne va pas revenir à notre...
Non, mais on revient. Oui. On parle, moi j'avais prévu que face au déferlement des critiques sur la colonisation agricole, je pense qu'on peut revenir à la réalité.
Eh bien, vas-y.
Alors, tout d'abord, on dit toujours la spoliation des terres des musulmans par les colons.
Oui.
Mais il n'y a pas eu de spoliation de terres. Il y a eu, certes, qu'il faut le reconnaître, dans les années 30...
1830.
Des terres qui étaient non cultivées ou très peu cultivées, qui appartenaient aux autorités turques, c'est-à-dire les beyliks, ou à des congrégations religieuses.
Musulmanes,
congrégations religieuses musulmanes. En 1830, il n'y avait pas de chrétiens en Afrique du Nord. Et donc, ces terres qui appartenaient à des administrations qui disparaissaient, puisque les Turcs partaient, etc., ont été reprises par l'administration française, par les domaines.
Oui.
Alors, il y a eu deux cas. Ou bien, c'était des terres qui étaient exploitées, c'est-à-dire que les domaines les donnaient à cultiver à des fellahs, ça s'appelait les fellahs, qui les plantaient. Et là, les domaines ont continué. Ça n'a pas changé, c'était simplement le fait de la travailler.
Oui.
Ça ne lui coûtait pas plus d'être français que d'être des Turcs, et de continuer. Et en revanche, la France, elle, a poussé à l'utilisation des terres qui n'étaient pas cultivées, en les donnant, par exemple, à des Européens qui arrivaient, et ainsi de suite. Mais c'était des terres non cultivées, donc ça ne privait personne. Et je crois qu'une des preuves qu'on ne s'est pas approprié les terres au détriment, c'est que quand on regarde les statistiques, là j'ai pris la statistique des années 1950, parce que c'est à peu près les meilleurs que l'on ait avant le début des événements, etc. En 50, il y avait en gros 10 millions d'hectares de terres cultivées, parce qu'on a là tout ce qui est la statistique, mais il y en avait moins d'un tiers qui appartenait aux Européens, c'est-à-dire 2,7 millions hectares, et les musulmans en possédaient 7,4 millions.
Je voudrais bien savoir aujourd'hui ce qu'il en est. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Mm-hmm. C'est-à-dire ce qui est effectivement cultivé, d'abord, en Algérie, et deuxièmement, combien d'Algériens vivent économiquement sur l'agriculture.
Mm-hmm.
Je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir statistique sur
mais
le
non,
sujet.
D'autant plus.
Peut-être qu'on pourrait demander à Macron de demander à Toubou, son vieux copain.
Non, parce que les statistiques, moi je crois que je te l'ai dit plusieurs fois. Moi j'ai souvent, quand on parle de statistiques.
Tu es un économiste et par conséquent tu connais bien l'usage des statistiques.
J'ai fait même un troisième cycle d'économétrie à la fac des sciences. Je me souviens toujours du mot. de Churchill sur le mensonge, la gradation du mensonge. Oui. Churchill disait la gradation du mensonge, il y a le simple lie, le simple mensonge, damn lie, le satané mensonge, et les statistiques. Et effectivement, on m'a toujours appris dans les mathématiques que quand on fait des statistiques avec des relations de cause à effet, etc., il faut d'abord savoir ce que l'on veut avant de choisir les
c'est
éléments.
Ça. Bon. Alors revenons à l'agriculture.
On a spolié les terres, mais finalement, il y en avait les trois quarts. Alors qu'il y avait moins de 100 000 hectares cultivés quand on est arrivé.
Oui.
Et quand on est en 1950, il y en avait 2,7 millions qui étaient cultivés par des Européens, mais 7,4 millions par des musulmans. Donc on ne l'aurait pas tout pris, quoi, quand
bien
même.
Sûr, hein. Bien sûr. La plupart d'entre eux, dans le fond, le regrettent parfaitement.
Ah non, mais
j'en suis convaincu, c'est comme dans les pays d'Afrique. Est-ce que ça finit, la pendance?
Le fils de ma mère avait une exploitation agricole pas très loin d'Alger, à Castiglione, une cinquantaine de kilomètres d'Alger, bon, qui a été nationalisé, mais comme il habitait à côté, il était resté là, et puis il a fait autre chose. Mais plusieurs fois, il me disait, mes anciens ouvriers qui ont récupéré les terres en bien vacant, puisque, etc., viennent me demander des conseils, mais surtout parce que l'administration gère. Oui. Et c'est-à-dire que, par exemple, on attribue les semences, mais au mois d'août. Alors que la récolte, c'est au mois d'août. Donc, ce qui veut dire qu'on ne cultive pas.
C'est l'administration française.
La bureaucratie.
Au carré, sinon au cube. Oui, bien sûr.
Oui, mais,
bien sûr.
Non, mais c'est aussi le système soviétique. Hein.
Oui, c'est ça.
La bureaucratie qui dirige on sait. Donc, c'est ça qui a largement...
contribué à l'effondrement.
Ouais, exactement.
L'incompétence.
Oui.
Qui se cache sous l'administration.
Oui. Alors, on parle aussi des gros colons. Là aussi, je vais sortir un peu de statistiques.
Dites et vérités.
Exactement.
C'est l'occasion ou jamais. Radio Courtoisie est là pour ça.
On parle des gros et riches colons, etc., qui exploitent l'Algérie. Mais en 1950, là encore, je reprends, sur 20 000 propriétaires ou fermiers européens en Algérie, pas fermiers, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui possèdent la terre, mais qui l'exploitent, comme ça se passe en France. Sur les 20 000, il y en avait plus du tiers, c'est-à-dire 7 000, qui disposaient de moins de 10 hectares. Donc vraiment des petites exploitations, mais aussi compréhensibles, parce qu'ils faisaient de la culture de tomates, etc.
Maraîchère,
et donc on n'a pas forcément...
Des trucs intensifs,
Les tomates, on ne cultive pas en tracteur.
Et puis probablement en Algérie, on peut faire 3 ou 4 récoltes de tomates dans l'année.
Et que les familles riches, il y avait 120 familles qui détenaient plus de 100 hectares. Vous voyez les gros colons par rapport à ça. Je crois que la raison pour laquelle on parle des gros colons par rapport à l'Algérie, c'est que ça se voyait en France. Et en France, dans la campagne ou autre, on voyait arriver des gens qui avaient un certain nombre de moyens. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que beaucoup des agriculteurs algériens étaient d'origine italienne, maltaise, espagnole, etc., etc. Et eux, quand ils allaient au pays, une fois tous les 2 ou 3 ans, mais voir leur famille. Donc ils allaient en Andalousie, dans les Pouilles, ou un truc comme ça, on ne les voyait pas en France. Et on ne voyait en France que des gens qui avaient des sources françaises comme ma famille en Ardèche etc. Et qui venaient une fois tous les 2 ou 3 ans, et c'était ceux qui avaient les moyens de se payer déjà le bateau ou l'avion, et qui Bah, ils venaient une fois tous les trois ans, donc ils se faisaient plaisir en allant voir, en allant faire des cadeaux, etc. Donc on disait, bah, tous les colons sont riches.
Oui, oui.
Je crois qu'il faut regarder. Effectivement, c'est vrai que ceux qu'on voyait, c'était les riches.
Oui.
Mais c'est pas parce qu'ils étaient tous riches, oui. C'est parce qu'il y avait que ceux qui pouvaient venir.
Ils étaient riches, relativement riches, parce que c'est aussi un énorme problème en France avec les crétins qui font la sociologie française. Mmh. C'est pas parce que tu possèdes 50 châteaux que tu es riche. Tu as 50 postes de défense. c'est absurde. C'est pas parce que tu es propriétaire de biens assez considérables que c'est pour ça que tu as des revenus. C'est absurde. Voilà, notre société est fondée sur des principes absurdes.
Et d'ailleurs, je crois qu'à cette époque-là, il y avait eu des études qui disaient que, en gros, les agriculteurs d'Algérie, individuellement, avaient des revenus inférieurs de 20% à ceux des paysans métropolitains.
C'est ça.
Mais aussi parce que ce n'est pas les mêmes agricultures, etc. Mais... Donc, le gros colon, etc. Alors, je reviens peut-être, je sais pas si on en a suffisamment parlé, mais parce qu'on va quitter l'agriculture.
Non, c'est très intéressant, parce que c'est quand même là-dessus qu'a été faite essentiellement la propagande dans les années 50.
Et aujourd'hui ?
Et aujourd'hui encore, oui, mais dans les années 50, moi je m'en souviens, j'étais un jeune étudiant, entre les années 50 et 60, il y a eu tout un argumentaire stupidement étalé dans les journaux de gauche, Le Monde, évidemment, la même chose. À l'époque, c'était l'Express, c'était l'Obs, etc. Et où on développait un argumentaire, mais absurde en plus. En plus, absurde.
Oui.
Faux, radicalement faux. Et tout ça, évidemment, élaboré par des intellectuels qui étaient en même temps des militants. À la manière des historiens de M. Macron. Voilà. Dont pas un seul ne connaît la véritable histoire.
Tout à fait.
Mais qui sont dans les grandes... qui ont des chairs et qui leur permettent de pérorer et de dire leurs âneries du haut de leur prétendu savoir. J'en profite pour régler nos comptes, parce que j'en ai assez de ce mensonge officiel.
Oui, mais alors, je vais revenir un peu là-dessus.
Qui est infamant pour la France.
Je crois qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est qu'en Algérie, on ne peut pas démontrer qu'il y a eu des massacres intentionnels de population. Qu'il y a eu des bagarres, mais que ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire on tue les tribus, on brûle, etc. Ce qui s'est passé en Argentine,
Australie.
En Australie, etc. Il n'y en a pas eu.
Non, du tout.
Là-dedans.
Bien sûr que non.
Parce que la population agricole était du même type. C'est-à-dire, c'était pas des nomades. Pillards. C'était des agriculteurs établis. On a parlé des Basizènes. Voilà le. Alors, maintenant, je change. On a parlé de l'agriculture, l'industrie et le commerce. Alors, on a encore.
T'as encore 20 minutes.
D'accord. 20... Alors, donc, en Algérie se créent naturellement des industries dont on a besoin. C'est-à-dire, il faut construire. Bon, et il n'y a pas beaucoup de bois, donc on construit avec de la pierre et du ciment. Et pour du ciment, on fait des cimenteries. On crée des entreprises de bâtiments, de travaux publics, pour les routes, etc. De métallurgie, de mécanique. Et aussi des industries qui sont en aval de l'agriculture, c'est-à-dire on récolte du tabac, on fait des cigarettes. On fait des conserveries. De poissons, mais aussi des tas d'autres...
De petits pois.
Exactement. Mais malgré tout, cette industrie reste modeste, puisque dans les années 50, je crois qu'il y avait en gros qu'environ 80 000 personnes qui travaillaient dans des usines, dans des industries de plus de 50 personnes. Donc c'est relativement limité, parce qu'on exportait aussi beaucoup vers la France. C'était souvent plus facile d'exporter des olives plutôt que de créer
des entreprises sur place.
Des entreprises sur place et ensuite de transporter des bouteilles d'huile ou autre. C'était ça. Mais en revanche, à côté de ça, il y a eu le développement d'un artisanat assez puissant sur tout ce qui était tissage, tapisserie, maroquinerie, etc.
Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une catastrophe dans ce domaine.
Oui.
Alors que c'était très prospère.
Oui, tout à fait. Et on verra que tout à l'heure, quand on parlera de l'éducation...
Quand les amis revenaient d'Algérie, ils arrivaient avec des sacs, avec des choses merveilleuses faites là-bas.
Oui, mais aussi, parce qu'on verra ça tout à l'heure, c'est que cet artisanat était fait par les femmes.
Oui.
Or, les femmes ne sortaient pas. On était quand même dans un régime musulman.
Oui.
Donc, elles ne sortaient pas de chez elles et autres. Donc, elles pouvaient travailler chez elles.
Oui.
Mais on n'allait pas en mettre trois ou quatre dans une usine dirigée par des hommes. Ça, c'est...
Oui, pas possible.
C'est pas possible. Donc, l'agriculture était faite. Il y avait une grosse exportation vers la métropole. C'est d'ailleurs pour ça que les ports se développent, que le port de Marseille s'est beaucoup développé, etc. Et il y a eu quand même une activité meunière qui s'est développée progressivement. Au départ, c'était on a besoin de charbon, on en trouve ici ou là. Mais il y a eu un début d'exploitation minière. Il y a eu des mines de charbon autour de Beaune. C'est pour ça que Beaune s'est pas mal développé. De fer à Ouenza. Il y a eu du cuivre à Médéa en Kabylie, du plomb, du zinc. Mais ça a été modeste. Alors là, je peux, si tu me permets un petit clin d'œil, c'est que la tour Eiffel a été construite dans la fin du 19e siècle avec du fer qui venait d'Algérie, de Ouenza. Il y avait grosses mines de fer à Ouenza. Et je me demande pourquoi le gouvernement algérien n'a pas encore demandé qu'on lui restitue ce fer.
Mais parce que Macron ne l'aura pas proposé.
Sous sa forme actuelle.
il faut soumettre cette idée à Macron qui se réjouira à l'idée de... Il faut démanteler la tour Eiffel et restituer ce qui appartient aux Algériens.
Non, pas même, il faut restituer à l'Algérie les spoliations, c'est-à-dire le canon de la consulaire qui est à Brest et cela.
Macron adore restituer ce qui, évidemment, ne lui appartient pas. Ce qui appartient à la France. Oui.
Alors donc, il y a une exploitation.
Il déteste tellement la France et les Français, cet homme, que c'est pour ça, probablement, que les Français l'ont élu à la tête de l'État.
L'exploitation minière s'est développée petit à petit. Mais en fait, elle se développait très vite en France aussi, à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas forcément de besoins énormes. Alors, donc, je reste là-dessus sur l'industrie. Et on va parler de la population.
Voilà, tu as un quart d'heure, pour nous parler de la population.
Oui, alors, donc, la population,
c'est très intéressant.
Qui était autour de 2 à 3 millions d'habitants depuis le début. Il y a eu des crises économiques, la sécheresse, des sauterelles, etc. etc. Elle s'est développée ensuite vers... On avait 4 millions en 1900, 5 millions en 1920, et puis une petite dizaine de millions, un peu moins, 7-8 millions en 62. Alors, quels ont été les supports? D'abord, il y a eu les progrès sanitaires. Il y a eu création d'hôpitaux un peu partout, alors qu'il n'y en avait pas. Recrutement de médecins de colonisation. Je crois que ça a été une des grosses choses, parce que comme la population,
c'était pas comme en Afrique noire.
Comment?
Comme en Afrique noire.
Comme partout.
C'est ça, partout. La France a rendu un service immense à la aux populations du monde, partout.
Elle est passée. On a lancé des
campagnes grâce à ça.
De vaccination, grâce auxquelles on a limité les épidémies de variole, de typhoïde, de
morts
infantiles,
etc.
Les maladies endémiques, comme le paludisme, par exemple, ont été traitées, puisque le docteur Lavrant, qui était un médecin militaire, c'est lui qui a découvert l'origine du paludisme, pour traiter le paludisme, ça m'en viendra, le traitement du paludisme. Et donc, le paludisme était quand même extrêmement, extrêmement dangereux. Il y a aussi une autre chose dont on parle peu, c'est que on a créé des systèmes automobiles de consultation, c'est-à-dire que au lieu d'attendre que les malades viennent,
c'est le médecin qui allait au devant des malades.
Les médecins de colonisation, c'était.
Et d'ailleurs, en France, il faudrait reprendre ça aujourd'hui, au point où on en est. La situation de la France est absolument tellement déplorable aujourd'hui qu'il faudrait revenir à ce système où c'est le médecin qui va à la, à la rencontre du malade.
Oui, mais alors là, il y a une autre raison pour laquelle c'était très important en Algérie, c'est l'aspect, disons, de civilisation, c'est-à-dire l'aspect de du père de famille et de la famille. Le père de famille ne voulait pas, on verra ça dans l'enseignement aussi, ne voulait pas que ses enfants sortent de son contrôle, et en particulier les filles.
Bien sûr, oui.
C'était... Et donc, je l'ai peut-être raconté, je ne me souviens pas si j'en ai parlé. Mon grand-père, un de mes grands-pères, était professeur de chirurgie infantile à Alger. Et puis, il avait été élevé près de Cherchel, donc il parlait l'arabe et assez bien le berbère aussi. Donc,
Il était tout à fait au point.
Il était tout à fait au point. Et il était effrayé parce que...
Dans l'entre-deux-guerres.
Il était, lui a fait la guerre de 14, oui. Mais comme tout jeune médecin, etc., dans l'entre-deux-guerres, c'est que on lui amenait un enfant, etc., pour une opération grave, disons une appendicite, une fracture ouverte ou un truc comme ça. Mais si c'était une fille, le père voulait la ramener le soir. Même si, tout simplement parce que...
Même s'il fallait faire une opération de l'appendicite.
Oui. Ben oui, mais on l'avait opéré. Mais il fallait l'emmener parce que je ne veux pas la laisser là. Où je dors avec elle. Mais il ne pouvait pas dormir parce qu'il y avait des salles pour les filles.
Mais bien sûr.
Etc. Et alors surtout, mon grand-père me disait, mais c'est inadmissible parce que les infirmières, on a essentiellement des infirmières et pas des infirmiers, et bon nombre d'entre elles sont des religieuses. Donc, il est décédé, il ne connaît pas les grands progrès qui ont été faits, en particulier à Paris, pour la gestion des petits-enfants par la mairie de Paris.
Les capacités considérables qu'on connaît bien à Madame Hidalgo et à son successeur, M. Grégoire.
Exactement. Donc, ça ne se passait pas en Algérie.
Une immense compétence, comme chacun sait.
Tout à fait. Mais du coup, le fait que le médecin aille dans la campagne, pouvait soigner, opérer ou un truc comme ça, c'était peut-être moins efficace que dans un service de chirurgie, mais c'était mieux que rien.
Bien sûr.
Donc, ça fait vraiment par exemple, une des choses, c'est que la mortalité infantile qui, dans le bled, c'est-à-dire...
Était considérable,
de l'ordre de 30%.
Oui, c'est ça.
Donc c'est énorme, a énormément disparu, parce que d'abord, on était là, le médecin était là au moment de l'accouchement, et expliquait ce qu'il fallait faire. Une fois qu'il avait expliqué, la cousine ou l'autre femme du même...
Oui, parce qu'il y avait plusieurs femmes.
Normal. Et notre femme, elle avait appris ce qu'il fallait faire. Surtout, elle savait ce qu'il fallait ne pas faire. Alors l'hygiène, les soins, etc., font que la population s'est bien développée, et beaucoup moins de mortalité et autres. Et alors maintenant, parce que j'ai encore un petit moment.
Oui,
l'autre axe. Donc là, c'est la santé publique. Donc on a traité. Mais maintenant, l'autre chose, c'est l'enseignement. Et l'enseignement a été un grand axe d'effort de la France, et je citerai, à ma défense, quelqu'un qui s'appelle Abderrahmane Farès, et qui a été
le premier
président de l'exécutif provisoire du FLN.
Et qui a été évidemment éliminé tout de suite.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il était à peu près honnête.
Oui, tout à fait. Mais donc, et il disait, s'il est en Algérie un domaine où l'action de la France ne se discute pas, c'est bien celui de l'enseignement. Les instituteurs ont apporté leur foi pédagogique et leur influence a été extrêmement heureuse. Fin de citation. Donc voilà je ne suis pas certain qu'un dénommé Bouteflika va nous dire la même chose aujourd'hui. Bon. Donc les instituteurs, d'ailleurs, il y a eu création.
C'est-à-dire peut-être une des raisons pour lesquelles le FLN s'acharnait particulièrement sur les instituteurs.
Bien sûr.
L'affaire Monroe, mais on en parlera
dès le début. Le premier assassiné. Mais alors, il y a eu, pour la France, un effort continu de création d'écoles primaires qui était ouverte à tous les enfants européens aussi bien qu'indigènes. Il y a eu des lycées, il y a eu des enseignements professionnels, l'université d'Alger, etc. Donc il y a eu un développement très, très important. Et surtout, il y avait formé, le monde français formait les instituteurs français pour leur expliquer comment fonctionnait les
venant de France. Comment il fallait faire pour, quand on allait dans le bled.
Dans le bled, la civilisation musulmane, etc., etc.
Parce que c'est différent, évidemment, ouais. C'est pas la même chose que d'enseigner à Sidi Bel Abbès que d'enseigner à...
Quand Sidi Bel Abbès, c'est une ville, mais enfin, d'enseigner dans un petit village, etc. Et les instituteurs indigènes, on les formait mais à une civilisation autre que la leur.
Et il y en a eu beaucoup, hein, je crois.
Oui, mais je vais citer dans une émission précédente la famille Zizène,
qui est le prototype, très, très intéressant,
le prototype de ce qu'on dit là. Oui. Alors là aussi, on a créé des écoles indigènes de filles. Alors je rappelle d'abord que juste dans les années 50, en France métropolitaine aussi bien qu'en Algérie, etc., il n'y avait pas d'école mixte. On était garçon, on allait dans une école de garçons. On était fille, on allait dans une école de filles.
Et c'était pas plus mal, entre nous soit dit.
Mais pour moi...
J'ai connu, comme jeune professeur, parce qu'il fallait, en tant qu'étudiant, que je gagne un peu ma vie. Donc j'ai été professeur pendant quelques années de latin et de grec, et de français. Et j'ai connu le changement. Ça s'est fait dans ces années-là. Eh bien, j'ai vu un effondrement du côté notamment des garçons.
Mais très largement. Mais pourquoi ? C'est que le développement physiologique d'un garçon et d'une fille n'est pas au même rythme.
Non, du tout.
C'est donc une fille va grandir beaucoup plus vite.
Oui.
Parce qu'à partir de 15 ans ou 16 ans,
elle est mûre.
Elle devient femme et qu'elle puisse avoir des enfants.
Oui, oui.
Alors que les hommes, on a une espérance de vie plus longue de ce côté-là.
Oui.
Donc il y a des programmes des écoles de filles qui ont été développés, mais dans les programmes des écoles de filles, presque plus de la moitié du temps était consacré à des formations de couture, de tissage, de broderie, etc., pour leur apprendre un métier.
Mais bien sûr, c'est très bien.
En revanche, quand on...
Et je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est moins bien, là-bas, mais en Algérie. Je suis sûr que c'est moins bien, pour les filles. Je suis sûr que c'est moins bien.
Mais aussi, en France, dans une classe, moi j'ai une de mes filles qui est professeure de lycée, etc., etc., mais qui me dit, à 14 ans, une fille et un garçon ne réagissent pas du tout de la même façon.
Et
elles sont plus brillantes que les garçons.
Je m'en suis rendu compte comme jeune professeur, et que c'était une absurdité. On a tué les garçons.
Oui.
On a tué la masculinité à ce moment-là. Et maintenant, on se prétend... Il ne faut pas s'étonner des réactions absurdes du masculinisme primaire.
Mais alors, donc, ces écoles étaient ouvertes aux garçons. Mais déjà, au départ, les musulmans étaient très réticents à envoyer leurs enfants, je parle de leurs enfants, même les garçons, dans une école, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les fasse échapper au système patriarcal. C'est-à-dire, le père de famille dirige la famille, donne les ordres, etc., etc., et tout le monde obéit, il ne faut pas qu'on leur montre que ça peut se produire différemment et qu'on les contamine en leur montrant ça. Et pour les filles, c'est encore pire. Alors, là aussi, puisqu'on est dans le... la remise à plat de la réalité, on nous dit mais la France a fait disparaître les écoles coraniques qui étaient là-bas. Ce qui est vrai, mais on ne parle pas de la même chose. Parce qu'il y avait effectivement un enseignement coranique un peu partout. Mais coranique, le mot coranique,
il faut bien
c'est pas
ce
littéraire.
Que
ça veut dire le Coran. Et l'école coranique est destinée non pas à apprendre à lire, à écrire ou à compter,
mais
destinée à réciter le Coran.
Oui.
Et donc, on pouvait faire les deux. Donc, il y en a eu nettement moins, d'autant plus qu'on avait inventé la séparation de l'Église et de l'État à ce moment, un peu avant. Et donc, on n'a pas financé les écoles coraniques. Oui. Mais on finançait les écoles. Mais alors, je vais citer deux ou trois chiffres. Par exemple, en 1900, il y avait, en gros, dans les écoles primaires en Algérie, 115 000 élèves. En 1900, oui. Et là-dessus, il y en avait 25 000 musulmans, c'est-à-dire à peu près 20%. Et dont simplement 1500 filles.
Oui.
Mais c'est pas nous.
C'était en 1900, ça.
En 1900. Mais au fil des années, la réticence des musulmans s'est réduite. Et en 45, donc 50 ans plus tard, il y avait 250 000 élèves dans les écoles primaires.
Combien ?
250 000.
Oui.
Donc on a doublé.
Oui.
Mais dont la moitié étaient des musulmans. C'est-à-dire que on est passé d'une école primaire où il y avait ouverte à tout le monde, mais où
il y avait essentiellement des Européens.
Des Européens à une école primaire dans laquelle il y avait moitié Européens, moitié musulmans. Ce qui veut dire que dans bon nombre d'écoles primaires, il y avait une grande majorité de musulmans parce que la proportion d'Européens était importante dans les villes et pas tellement dans les bleds.
Bien sûr. Bien sûr.
Et ça sera d'ailleurs un des...
Et les filles, il y en avait combien?
Alors,
dans les années 50?
Non, j'ai pas le...
Mais ça avait certainement augmenté.
Oui, ça avait augmenté, mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup.
Oui.
Pas beaucoup, parce que le...
Le système était là, quand
oui,
même.
Le système était là. J'ai raconté l'histoire de l'employé de maison de ma mère.
Oui, oui.
Qui, à 16 ou 17 ans, ma mère lui avait appris à lire, à écrire, à compter, etc., etc. Et à 16 ou 17 ans, elle pleurait parce que son père allait la marier.
Oui.
Un homme qui avait, je crois, 25 ans de plus qu'elle, et dont elle serait la troisième femme.
Ah, c'est ça.
Voilà, voilà donc le...
Et c'est là qu'il aurait fallu que la France continue son œuvre de civilisation et de civilisation chrétienne, évidemment.
Oui.
Mais ça, elle ne le voulait pas le faire. Donc,
la civilisation chrétienne, c'était compliqué avec, justement, la séparation de l'Église et de l'État.
Bien sûr, mais c'est ce qu'avait prédit Foucault.
Oui, mais la séparation de l'Église et de l'État, et je dirais aussi, et les réticences d'une bonne partie des évêques, etc., à faire du prosélytisme.
Oui. Eux-mêmes. Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait.
Oui. Dans l'affaire d'Algérie, les hommes d'Église n'ont pas été à la hauteur, incontestablement. Et au moment de faire les choix, il y en a eu très, très, très peu qui ont compris que c'était d'une gravité extrême, morale.
Mm-hmm.
Morale.
Ouais. Si tu me permets, je vais...
Tu as droit à 3 minutes pour conclure.
Encore là-dessus.
3 minutes pour conclure. Vas-y.
Non, mais j'allais donner un souvenir personnel.
Donne, ça va intéresser nos auditeurs. Vas-y.
Non, mais c'est que j'ai... j'en parlerai une autre fois.
Tu as 3 minutes.
Conclure là-dessus. C'est de dire, voilà, finalement, il y a eu en Algérie un énorme effort ou un énorme progrès civilisationnel mis en place par la France, que ce soit économique, social, médical et ainsi de suite, énorme, qui a été ensuite dont l'image a été, la photo a été déchirée par tous nos politiciens, et on en parle plus, encore maintenant avec les Stora et autres, on passe son temps à se battre en se disant on a été des affreux, on a fait ceci, on a fait cela, sans parler un moins de ce qui a été fait.
Oui.
C'est vraiment...
Qui était considérable. Considérable, surtout avec des... quand on avait affaire à un monde, on s'en rend compte aujourd'hui, dans toutes les réalités, quand on a affaire à un monde musulman.
Mmh.
Bon, alors, l'astuce, c'était de contourner la difficulté. Et on aurait pu parfaitement le faire.
Oui.
Mais pour ça, il ne fallait pas une république stupide... On poursuivra. Tu as 2 minutes pour conclure, cher.
Non, mais je crois qu'on peut regarder à côté, on peut regarder le Maroc, par exemple, qui a eu une évolution très différente de la nôtre.
Oui.
Pas parfaite,
oui.
Mais déjà très, très différente de la nôtre.
Oui, c'est... parce que bon, Lyautey s'en est occupé. C'est oui. essentiellement grâce à Lyautey. Lyautey a apporté, c'est vrai, toute la modernité à un Maroc vraiment moyenâgeux. mais il a su se concilier les autorités constituées là-bas.
Oui.
Il a su... Il a su, mais il n'y en avait pas en Algérie.
Non.
Il n'y en avait pas. Le Maroc est un royaume depuis longtemps.
Oui.
Et c'est quand même un avantage d'être un royaume. Nous avions une république. Mais heureusement, les gens qui exerçaient le métier de civilisateur et de colonisateur dans cette république étaient pour la plupart des royalistes. Ce qui était le cas notamment de Lyautey. C'était le cas de Lapérine, c'était le cas de Foucault, c'était le cas de... Et alors, du coup, ben, c'est vrai que quand les ordres arrivaient de cette stupide administration républicaine, eh bien, ils jetaient le papier dans le... Comme disait Lyautey, dès qu'il y avait l'en-tête, ils mettaient le panier et ils faisaient la verticale. Voilà. Bon. Allez, voilà. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, à la prochaine émission. Et merci de nous avoir écoutés. Et c'est passionnant, n'est-ce pas ?
Vous venez d'entendre le libre journal de la réaction dirigé par Hilaire de Crémier, émission diffusée mardi 14 juillet 2026 de 21h30 à 23h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.